Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, nous recevons Marie Renard. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie Renard, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les déléguées aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le nom exact de mes fonctions, ce sont des postes de fonctionnaires de l'État qui sont chargés, sous l'autorité des préfets dans chaque département, de coordonner la politique publique du droit des femmes et de l'égalité. Ce sont des postes qui ne sont pas récents, ce sont des postes qui datent des années 80, qui sont encore assez peu connus malheureusement.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Mais ce sont des postes qui datent des années 80 et ce sont des politiques publiques. Donc,
oui, qui relèvent
existent
vos missions relèvent du service public.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je dépends du ministère délégué aux droits des femmes et à l'égalité et à la lutte contre les discriminations.
Alors justement, je vous demanderai un peu plus tard quelles sont les missions précises ici sur le territoire corrézien. Mais d'abord, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes arrivée en Corrèze ? Pourquoi cette région ?
Alors comment je suis arrivée en Corrèze ? C'est facile parce que je suis corrézienne.
Vous êtes corrézienne, mais vous avez un parcours, je le sais, vous avez un parcours international, vous avez quand même beaucoup voyagé.
J'y suis née, j'y ai vécu quelques années et j'y suis revenue il y a 3 ans pour prendre ce poste-là de déléguée aux droits des femmes après une carrière... un peu mobile et agitée et dans différents pans de la fonction publique de l'État, fonction publique territoriale. J'ai travaillé sur différentes missions, sur les thématiques de santé, sur les thématiques de sécurité intérieure, sur des thématiques de RH et de services support. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière de fonctionnaire pour arriver ici, en Corrèze, sur une mission qui est totalement différente de celle que j'exerçais précédemment, différente en tout cas sur le plan de l'organisation, puisque le cas particulier des délégués aux droits des femmes dans les départements, c'est que ce sont des postes totalement solitaires. Je suis seule. Alors seule dans une équipe, puisque je travaille au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations, une grosse, grosse direction départementale. Mais sur ces missions-là, je n'ai pas d'équipe et c'est toute la difficulté du poste, c'est-à-dire que les partenariats, ils sont extérieurs. Ce sont des associations, ce sont d'autres institutions, d'autres ministères, bien évidemment, puisque cette politique publique du droit des femmes et de l'égalité, c'est une politique interministérielle. Chaque ministère est censé en faire. Le privé est censé en faire, le public est censé en faire, est censé travailler sur les sujets de l'égalité. Les postes de délégués aux droits des femmes sont des postes d'accompagnement, de suivi, de soutien aux différentes initiatives locales. Voilà.
Alors j'ai notamment vu dans votre parcours que vous êtes historienne. Vous connaissez donc très bien l'histoire des droits des femmes. Vous avez une bonne connaissance également de certaines visions internationales. Vous avez notamment eu quelques années, il me semble, du côté du Qatar. Mais je vais vous demander, à cette micro-échelle qu'est la Corrèze, quels sont les enjeux actuels sur le territoire ?
Alors, peut-être avant de parler des enjeux du territoire, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je vous rappelle quelles sont les différentes missions des DDFE. En fait, le travail des délégués aux droits des femmes est articulé autour de 3 axes principaux. Le premier, qui est le plus visible et qui a le plus... qui a rencontré beaucoup d'écho dans la population et qui a été l'objet de nombreuses évolutions politiques ces derniers temps avec le Grenelle de lutte contre les violences, c'est ça, c'est le travail sur la lutte contre les violences faites aux femmes, tout type de violences, que ce soit des violences intrafamiliales, donc conjugales, que ce soit des violences sexistes et sexuelles, y compris au travail, que ce soit les thématiques de la prostitution ou des mutilations. Voilà, tous les types de violences faites aux femmes font partie des missions des DDFE. Et sur ces sujets-là, je travaille, comme mes collègues de France et de Navarre, je travaille en Corrèze avec les différents partenaires que sont les forces de l'ordre, bien évidemment, le médecin légiste du département, les associations concernées. L'objectif, c'est de faire en sorte que les victimes soient accueillies, accompagnées, orientées, le mieux possible en fonction de leurs besoins. Depuis ces dernières années, je vous l'ai dit, beaucoup d'actions, beaucoup d'argent public a été mis sur la table par le biais du Grenelle de lutte contre les violences pour faire évoluer ces situations. quelles que soient les institutions, ces dossiers de violence conjugale ou de violence faite aux femmes sont des dossiers prioritaires. Je pense particulièrement aux instructions du garde des Sceaux ou aux instructions du ministre de l'Intérieur pour police et gendarmerie. Et clairement, voilà, les différents professionnels de ces différentes institutions en Corrèze travaillent la main dans la main pour faire en sorte que l'ensemble des victimes soient accueillies au mieux, comprises, écoutées, orientées, soignées si besoin est, conseillées en tout cas, et que les choses se passent pour le mieux. Depuis quelques années, l'évolution, elle va vers, la lutte contre les violences, elle va vers les enfants. Pendant longtemps, on appelait ça les enfants témoins dans les situations de violence conjugale. En fait, on appelle ça maintenant, et la justice les qualifie, d'enfants co-victimes. Et ils sont d'ailleurs représentés au procès des auteurs. Des enfants co-victimes, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que le psychotraumatisme dont on parle, qui touche beaucoup la victime numéro un, qui est souvent leur mère, ce psychotraumatisme qui abîme la mémoire, qui a des conséquences sur la vie future des victimes, on se rend compte que ce psychotrauma, il touche aussi les enfants.
Et ça fait combien de temps qu'on s'y intéresse, vous dites ?
Ça fait bien plus d'une dizaine d'années, mais les études sont un peu longues à sortir. Et l'Organisation mondiale de la santé considère par exemple que parmi ces enfants co-victimes, 15% deviendront des auteurs et 16% deviendront des victimes.
Ah oui,
donc ce sont quand même des chiffres énormes. Et il y a sincèrement tout un travail à faire pour rompre cette espèce de cercle vicieux de la violence intrafamiliale. C'est pour ça que mon ministère finance aussi tout un travail sur l'accompagnement des auteurs dans le cadre de la lutte contre la récidive. Et le ministère délégué aux droits des femmes et à l'égalité finance les CPCA, les centres de prise en charge des auteurs. Ici, en Corrèze, l'antenne du CPCA est assurée par l'Aravic France Victime 19. Cette association, pour les auteurs, la plupart du temps, il faut bien le dire, sur orientation de justice, organise des stages de responsabilisation pour essayer de déconstruire dans la tête de ces auteurs ces comportements pour lesquels ils ont été condamnés.
C'est intéressant ce que vous me dites, je l'apprends, je ne le savais pas. Comment est-ce que ça se passe, vous dites, c'est sur décision de justice ?
Alors ces CPCA, ils sont ouverts bien sûr à n'importe quelle personne qui souhaiterait se faire accompagner parce que se sentant à risque de violence, par exemple. Alors ça peut exister, mais c'est une toute petite catégorie de la fréquentation de ces centres. Ce sont plutôt des décisions de justice, des orientations de justice en pré-sententiel ou en post-sententiel. Ces auteurs sont orientés vers des stages de responsabilisation pour essayer de leur faire comprendre quel est l'impact de leur violence sur les victimes, ce que ressentent les victimes, et essayer peut-être aussi de savoir d'où vient cette violence chez eux.
Voilà. C'est intéressant ce que vous
Parce
dites.
Que on la, imagine... la violence, il y a, dans ces situations de violence, il y a beaucoup une répétition de choses, de choses anciennes. Mais il y a
vous
aussi...
parlez du transgénérationnel peut-être.
Oui, tout à fait.
C'est intéressant,
et
ça,
ces histoires familiales qui traînent et
de prendre en charge toute la famille en cas de violence conjugale.
Alors là je vous parlais de prise en charge de l'auteur et d'accompagnement de l'auteur dans le sens de la prévention de la récidive.
Oui, ben oui,
ensuite,
bien sûr.
Voilà sur le sujet des violences, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est le système, le phénomène de l'emprise. Voilà. Il existe dans notre société des personnes qui considèrent que leur compagne, leur femme, et leur chose. Mmh. Voilà. C'est ça le phénomène de l'emprise. Et comment l'emprise, c'est un phénomène très sournois qui se développe de façon insidieuse. Ce ne sont jamais au début d'une relation des choses très, très brutales ou très, très visibles. C'est de façon très progressive et insidieuse. Les associations avec lesquelles je travaille ont l'habitude de dire que ça commence toujours par une histoire d'amour.
Bah oui, oui, oui.
Voilà. Sauf que dans certaines situations, il y a une volonté de domination de l'auteur sur la victime. Et petit à petit, au fur et à mesure d'une relation qui évolue vers la violence et vers l'emprise, cette domination de l'auteur s'exerce de plus en plus... brutalement ou pas, puisque dans les violences conjugales, on estime que 70% de ces violences conjugales sont des violences psychologiques. ce qui n'est d'ailleurs pas toujours très facile à matérialiser. Comment à la fois pour les enquêteurs.
Exactement, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte si on a une amie au quotidien qui en est victime ? Est-ce que vous avez des pistes ?
Alors, s'en rendre compte, c'est difficile à dire, dans la mesure où les victimes ne parlent pas forcément facilement. L'intérêt des uns et des autres, l'intérêt citoyen, on va dire, hein, c'est d'avoir toujours une oreille attentive et d'être toujours, se présenter toujours comme une ressource. Une capacité d'écoute, ne jamais être dans le jugement, être toujours dans l'écoute et d'être dans la bienveillance. Après, l'important, c'est de pouvoir adresser et orienter ces victimes vers les bonnes personnes et vers les associations du département qui sont extrêmement compétentes. Donc là, on a sur le département de nombreuses associations. Ici, nous sommes à MEMAC. Vous avez à Ussel l'association Ussel.
Oui, qu'on connaît bien. Hein,
très, très investi sur le sujet. Vous avez le planning familial à Perlevade qui rayonne aussi sur le...
Qu'on connaît bien également.
Sur le plateau et qui est aussi très investi sur ces sujets-là. Vous avez bien sûr l'association historique SOS Violence Conjugale qui travaille... depuis son siège de Tulle, mais qui travaille également sur l'ensemble du territoire, puisque l'association a développé des permanences en milieu rural, en particulier auprès des maisons des solidarités départementales, du conseil départemental de la Corrèze, avec lequel elles ont passé une convention. Vous avez aussi le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, dont les juristes sont extrêmement actives et efficaces dans l'accompagnement des victimes. Vous avez également plus sur le bassin de Brive, mais qui est amené à se développer, vous avez la Maison de Soi, qui est labellisée Maison des Femmes. Donc c'est une structure associative qui est adossée à l'hôpital de Brive et qui propose aux victimes une prise en charge pluridisciplinaire. C'est l'intérêt de ces nouvelles structures, c'est-à-dire que... elle vous propose cette maison de soi, une prise en charge selon les besoins des victimes, médicales, paramédicales, médico-sociales, sociales, juridiques. Voilà. On peut, par exemple, venir recueillir la plainte d'une victime dans les locaux de la maison de soi. La police peut venir recueillir une plainte à cet endroit-là. Voilà. La victime peut y rencontrer le médecin légiste. C'est important aussi de rencontrer le légiste pour essayer justement de matérialiser sur le plan médical des violences psychologiques. Le légiste est capable de ça. Ça, c'est extrêmement intéressant pour la justice en particulier. Vous avez aussi, sur l'accueil, alors du coup sur l'hébergement des victimes de violences, vous avez aussi l'association Le Roc, qui à Brive et à Tulle, et sur tout le département, répond aux besoins d'hébergement d'urgence des femmes victimes avec ou sans enfants. Et vous avez aussi l'ARAVIC France Victime 19 sur le département qui accueille à la fois les victimes et les auteurs sur ces centres de prise en charge des auteurs de victimes des auteurs de violences conjugales. Nous sommes ici à MEMAC en zone rurale et je voudrais rappeler que si 31% de la population française réside en zone rurale, c'est 50% des violences conjugales qui s'y passent.
Donc, alors justement, c'est l'un des enjeux de la Corrèze, de faire en sorte que la ruralité ne soit pas un frein.
Exactement. Et la prise ruralité, en charge. Pour une victime, c'est compliqué parce que la situation de violence est elle-même extrêmement complexe en elle-même. Mais le fait de vivre en zone rurale, à distance des ressources existantes, avec des difficultés de mobilité parfois, un manque d'anonymat, pour les victimes, c'est extrêmement complexe de sortir de cet enfermement finalement. Et je rappelle ces situations très, très délicates à gérer de violences conjugales dans les couples d'agriculteurs. Quand on est en GAEC avec son conjoint, comment fait-on pour s'éloigner de cette violence ? Il y a le domicile, mais le domicile, c'est aussi le lieu de travail. Donc, on peut imaginer que la victime puisse sortir du domicile, mais... Alors le lieu de travail, comment ne pas revenir sur le lieu de travail ?
Vous parliez de ces lieux neutres en quelque sorte, puisque les victimes n'ont plus besoin d'aller au commissariat de police pour s'exprimer, pour se faire entendre.
Tout à fait. Avec un certain nombre d'associations, SOS Violence Conjugale, je vous le disais, avec sur les les lieux de permanence des maisons des solidarités départementales du département de la Corrèze, et avec d'autres associations sur les espaces France Service, il est tout à fait possible de rencontrer des associations ou la représentante d'une association d'aide aux victimes dans un espace France Service en zone rurale. La préfecture de la Corrèze a conventionné avec l'ensemble des associations pour la mise en place, à la demande, de permanence en direction des victimes sur un simple appel. Le 3919 permet de contacter une plateforme nationale qui ensuite basculera sur des antennes locales, quelles que soient les associations. Et il est tout à fait possible d'avoir de pouvoir trouver un rendez-vous avec une association spécialisée dans ces lieux neutres estampillés services publics que sont les espaces France Service, neutres, anonymes, voilà. Et l'ensemble des agents d'accueil des espaces France Service sont informés, sensibilisés à cette thématique de l'accueil des victimes de violences, et en zone rurale en particulier, mais pas seulement, hein, il est tout à fait possible de trouver une oreille attentive et de trouver un relais d'information et quelqu'un qui puisse aider dans ces situations-là, dans les espaces France Service.
Alors comment est-ce qu'on peut trouver l'annuaire justement de ces espaces France Service selon les différentes communes ?
Alors l'annuaire de l'espace France Service, vous l'avez sur le site de la préfecture de la Corrèze.
Site de préfecture de la Corrèze.
Il est, hein. Oui, extrêmement facile à trouver. Vous avez l'ensemble des associations que je vous ai citées là existent évidemment, et il y a des adresses téléphone et des adresses mail que vous trouvez sur Internet sans aucun problème. Et vous avez dans le cadre de la lutte contre les violences, bien évidemment et en premier lieu, le 3919, numéro national, H24, qui pourra apporter des réponses et vous donner justement les numéros spécifiques des partenaires concernés.
Eh bien, c'est une sacrée mission que celle de lutter contre les violences conjugales sur le territoire.
Énormément encore de travail à faire. Alors, de travail, non, parce que... Enfin, de travail. Il y a toujours du travail. Hein, il y a toujours du travail. Mais je vous dis, ce Grenelle, depuis le Grenelle de 2019, beaucoup de choses se font. La structuration départementale est arrive à maturité, on va dire. Hein. Le préfet et les procureurs de Corrèze co-préside tous les ans un comité local d'aide aux victimes spécifiquement dédié aux violences conjugales, qui rassemble l'ensemble des partenaires que je vous ai cités, institutionnels et associatifs. Des sensibilisations sont développées. Par exemple, ici en Corrèze, les associations sensibilisent les élèves sortant de l'école de gendarmerie de Tulle, en lien avec la maison de protection des familles, qui est une structure de la gendarmerie qui est dédiée aux atteintes aux personnes, dont bien évidemment les violences faites aux femmes, violences conjugales en particulier. Donc ces sous-officiers de gendarmerie qui vont devenir pour certains des officiers de police judiciaire et qui d'autres travailleront en gendarmerie mobile seront quand même amenés à recevoir du public et à auditionner les victimes. Hein. Comment dans une audition qui est quand même une procédure extrêmement normée, comment on suscite la parole de la victime, comment on fait en sorte qu'elle ne se referme pas, comment on peut avoir un accueil bienveillant, une oreille attentive. C'est extrêmement difficile hein, pour ces professionnels dont ce n'est pas le métier premier. Ce sont des procédures longues et complexes et ils ont aussi beaucoup de mérite de prendre le temps nécessaire à des auditions longues, difficiles. L'intérêt pour eux, c'est aussi sur ces sensibilisations qu'ils comprennent bien que, pour vous donner un tout petit exemple, hein, entre l'audition numéro 1 et l'audition numéro 2, le témoignage de la victime peut varier, mais c'est certainement, et c'est toujours, un des effets de la mémoire traumatique. Voilà, la mémoire de la victime est abîmée, le psychotrauma abîme la mémoire, et on a besoin de sa mémoire pour raconter son histoire, mais quand la mémoire fait défaut, c'est compliqué. Donc il est important aussi que les professionnels des forces de sécurité intérieure soient informés de ce que c'est que ce psychotrauma et de quelles peuvent être ses conséquences sur la victime.
Alors depuis combien de temps est-ce que les futurs gendarmes, les futurs officiers, sous-officiers, ont cette formation.
Alors là, je vous parle d'une sensibilisation que nous avons mise en place spécifiquement pour le département de la Corrèze avec l'école de gendarmerie de Tulle. Les programmes de ces sous-officiers en formation comportent depuis longtemps toute une partie de plus en plus solide et de plus en plus affûtée sur la thématique des violences. L'intérêt de ce partenariat avec les associations et la maison de protection des familles avec l'école, c'est de leur apporter du concret, c'est de leur apporter des exemples.
Donc c'est quelque chose qui est propre finalement à la Corrèze, que vous avez réussi à mettre en place.
Tout à fait, tout à fait.
Très bien. Alors, comme je vous disais, c'est une sacrée mission de prendre à bras-le-corps ces violences sur le territoire. Vous en avez aussi plusieurs, et notamment celles qui concernent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Tout à fait.
Alors là aussi, je voudrais vous demander, quels sont les enjeux en Corrèze ?
Bien, les enjeux en Corrèze de l'égalité professionnelle, ils sont un peu les mêmes que sur le reste du territoire. Et il y a deux chiffres qui sont extrêmement parlants. Tout salarié, agent public confondu, tout type de métier, tout type de niveau, tout type de temps de travail, partiel ou pas, l'égalité, la différence de salaire entre hommes et femmes, elle est de 24%. Et elle est de 42% d'écart de retraite hors reversion. C'est quand même des chiffres énormes.
Des chiffres qu'on peut expliquer notamment par le fait que les femmes sont parfois, handicapées, si je puis dire, par le côté familial, par le fait d'être enceinte, fait d'avoir des
tout
enfants.
Tout à fait. Les études de l'INSEE et d'autres spécialistes montrent que, par exemple, la discrimination pure, c'est-à-dire deux personnes, un homme et une femme, même niveau de diplôme, même poste, même expérience, des discriminations salariales, ça existe encore. Je rappelle que ça tombe sous le coup de la loi. Mais ça devient extrêmement résiduel. On les estime à 6-8% dans le privé et quand même 3, 4 ou 5% dans le public. Les discriminations existent aussi dans la fonction publique. Ne pas se faire d'illusions. C'est plus difficile, mais ça existe. Non, les discriminations, les différences de salaire entre hommes et femmes, elles s'expliquent surtout par le type de métier exercé par les femmes. C'est-à-dire que on va retrouver les femmes majoritaires dans les métiers qui ne payent pas. Dans les métiers qui payent le moins, dans les métiers de l'aide à la personne, dans les métiers du care, dans ces métiers aussi sur lesquels vous trouvez le plus de temps partiel subi, le plus d'horaires décalés. Les ménages dans les bureaux, dans les entreprises, c'est avant l'arrivée des salariés ou après leur départ. Sauf qu'il faut aussi se rappeler que 83% des familles monoparentales ont une femme à leur tête.
Oui.
Donc c'est la double peine, là aussi. C'est-à-dire que une femme seule avec enfant, en plus dans les métiers de l'aide à la personne ou les métiers du ménage, comment on fait ? C'est la quadrature du cercle. Et en plus, dans les zones rurales, où il faut une voiture qui fonctionne pour aller d'un domicile à l'autre pour l'aide à la personne sur lesquelles elles sont beaucoup, elles sont très 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 majoritaires. Il y a d'autres métiers sur lesquels elles sont majoritaires. 92 ou 13% des enseignants de maternelle sont des femmes. Les métiers qui payent le plus sont les métiers occupés majoritairement par les hommes. Donc ce travail-là sur la mixité des métiers, il est extrêmement important. Il y a un travail qui est fait, mais qui a été fait aussi par la loi, qui a imposé beaucoup de choses. Je pense par exemple à l'index de l'égalité dans les plus grosses entreprises, qui impose et qui contrôle en tout cas les progressions de carrière comparées des hommes et des femmes dans l'entreprise, qui contrôle et qui surveille le taux de promotion, qui surveille le taux de féminisation des instances décisionnaires. On avance lentement mais sûrement, mais pour l'instant c'est un indicateur, cet index. Donc il faut aussi que les entreprises l'acceptent, le mettent en œuvre et éventuellement apportent des mesures correctives, ce que l'inspection du travail est tout à fait en mesure de contrôler, par exemple.
Alors justement, vous parlez de ces métiers les mieux payés. Vous dites qu'il y a moins de femmes. Est-ce qu'une femme pourtant est capable? Est-ce que les femmes peuvent accéder à ces métiers? Je parle tant au niveau formation qu'au niveau peut-être après de l'organisation, de réussir à faire garder les enfants, de réussir à progresser malgré les périodes d'absence liées à la grossesse.
Alors, c'est comme vous dites, ces périodes d'absence liées aux grossesses, normalement, ils n'ont pas à compter dans la carrière et les dernières... Le code du travail impose justement que des femmes concourent à la promotion au retour du congé maternité.
Oui.
Voilà. Ce qui crée aussi des tensions clairement dans les entreprises. Hein. Mais elle n'était pas là. Pourquoi elle aurait la prime? Pourquoi elle aurait la promo? Elle n'était pas là. On a fait son travail à sa place. Ça crée aussi des tensions. Ceci dit, si la loi n'intervenait pas, que se passerait-il? Rien. Donc au bout d'un moment, la loi est proactive et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter pour avancer sur ce chemin de l'égalité réelle. Mais l'égalité dans notre pays, elle est partout dans la loi, elle est partout dans les textes, elle est partout dans la réglementation. Mais elle n'est pas partout dans la réalité. Vous avez parlé justement de la charge mentale. C'est toujours les femmes qui assurent la grande majorité du travail domestique ménager. C'est toujours les femmes qui gèrent les enfants, que ce soit sur les rendez-vous médicaux, les rendez-vous avec les enseignants, les différents rendez-vous administratifs. Alors, attention, on connaît tous, les uns et les autres, des familles chez qui ça ne se passe pas comme ça, des femmes qui ne sont pas comme ça, des hommes qui ne sont pas comme ça, bien sûr. Moi, je vous parle en macro, je vous parle en moyenne. Hein. Il y a bien sûr des progrès, il y a bien sûr des choses qui s'améliorent, mais en moyenne, et toujours, la charge mentale, elle est sur les épaules des femmes.
Comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça?
Et alors ça,
c'est pour tendre vraiment vers l'égalité.
C'est la troisième corde à mon arc, et c'est peut-être la plus difficile. C'est-à-dire que pour que les femmes, finalement, pour que cet écart de salaire... Parce que finalement, le travail, le salaire, c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est l'égalité. C'est là-dedans qu'elle se trouve, l'autonomie des femmes. Si les femmes ne vont pas dans ces métiers-là, d'où ça vient? Est-ce qu'elles auraient un cerveau différent? Est-ce que les femmes auraient par nature le gène des vieux, des bébés et des malades? Mais on peut se le demander.
Oui.
On peut se le demander. Est-ce que les femmes, par exemple, n'auraient pas, définitivement pas, la bosse des maths? Là, tout ce que je vous sors, là, ce sont d'énormes stéréotypes. Eh bien, la base de tout ça, c'est les stéréotypes. C'est-à-dire ces idées toutes faites, ces préjugés, ces idées reçues, ces prêt-à-penser ancestraux, pour la plupart d'entre eux, qui limitent l'autonomie des filles, qui limite leur liberté de se penser elles-mêmes, leur liberté de se projeter dans autre chose qu'un modèle qui a été pensé, mâché pour elles. Et ce travail sur les stéréotypes, en fait, c'est la base de tout. Sans stéréotypes, pas de sexisme. Le mot sexisme, il a été construit comme le mot racisme. Le racisme, c'est une idéologie qui définit qu'une race est supérieure à une autre. Le sexisme, c'est une idéologie qui définit qu'un sexe est supérieur à l'autre. Voilà. Ce sexisme-là, il est nourri de stéréotypes. Les filles, c'est comme ci. Les garçons, c'est comme ça. Les filles, c'est gentil, c'est doux, c'est aimable, c'est souriant, c'est poli, c'est propre sur soi, ça saute pas dans les flaques, ça grimpe pas aux arbres, ça crie pas trop fort, c'est respectueux, c'est méticuleux, voilà. Ça aime le rose, ça pleure souvent, c'est sensible, c'est fragile. Un garçon, c'est courageux, c'est audacieux, ça grimpe aux arbres, ça n'a pas peur, ça essaye tout de suite la nouvelle trottinette, c'est insolent parfois, c'est provocateur, c'est bagarreur. Voilà. Alors, quid d'un garçon, d'un petit garçon, qui ne correspondrait pas à ces stéréotypes-là?
Ou d'une petite fille?
Exactement. Alors, les stéréotypes touchent autant les filles que les garçons.
Puis c'est quelque chose, quand on vous entend, on comprend que c'est intériorisé dès le plus jeune âge. Vous dites, on va dire à une petite fille, tu pleures, t'es mignonne, on va dire à un petit garçon, ah, il est en colère, c'est normal, c'est un petit caïd.
Mais les associations avec lesquelles je travaille, je pense en particulier au CIDFF, vous ferez une belle démonstration pour vous prouver que le stéréotype, il touche l'enfant avant même sa naissance. C'est-à-dire la vision, les projections que les parents, puis la famille ont sur cet enfant, existent déjà avant même sa naissance. Tu vas avoir une fille, quand on s'adresse à la mère, tu vas avoir une fille, la chance, tu pourras bien l'habiller, tu pourras la coiffer, comme si cet enfant était une poupée. Ou un père, si c'est un garçon, la chance, tu pourras aller jouer au foot avec lui. Et si c'est une fille, oh, mais elle s'occupera bien de toi. Voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est extrêmement caricatural.
Oui, bien sûr.
Mais malheureusement, cette caricature, elle est largement répandue.
Puis et les parents n'ont pas l'impression de mal faire. Quand...
Bien sûr que non.
C'est presque inconscient, finalement.
Ce sexisme dont je vous parle, il peut être extrêmement bienveillant, extrêmement paternaliste, par exemple, dans les choix d'orientation. Mais tu pourrais être un stit, ma fille, tu aurais les mêmes vacances que tes enfants.
Ah oui.
C'est plutôt bienveillant comme phrase, c'est plutôt... Voilà.
Oui, puis quand on connaît les problèmes... les problèmes des modes de garde sur le territoire. Parfois, c'est vrai qu'on y pense. On se dit avoir des vacances en même temps que ses enfants, ça pourrait résoudre cette problématique.
Mais vous voyez, en fait, on parlait tout à l'heure de métiers, de mixité des métiers. On peut parler aussi d'orientation professionnelle. Hein. Les filles dans les classes prépa, grandes écoles d'ingénieurs, elles sont encore extrêmement minoritaires. Ça fait 20 ans qu'elles ne sont pas 30%. Ça ne bouge pas. Les filles dans les filières du numérique, elles sont quasiment absentes. Ça n'évolue pas. D'où on sort l'idée que les filles sont moins douées en maths et en sciences en général que les garçons. Ça, encore, c'est du stéréotype. Moi, on me l'a déjà dit, mais Madame Renard, c'est normal. Filles, garçons, cerveau droit, cerveau gauche.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Ces stéréotypes sont bien là, ils sont bien installés.
Comment est-ce qu'on fait justement pour les déloger ?
Et c'est là que c'est plus compliqué. Et c'est là que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une politique publique aussi solide que celle qui a été mise en place sur la lutte contre les violences, une politique publique justement sur cette éducation à l'égalité. Alors elle existe bien sûr cette politique publique puisque voilà, j'en suis la représentante et c'est moi qui la coordonne, mais c'est plus difficile parce que c'est moins concret, c'est moins facile. Et il faudrait, je pense, et alors certains le font très bien, mais je pense qu'il faudrait travailler auprès de tous les enfants, de tous les enfants. L'autre, fille, garçon, différent et égaux. Les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes obligations, mais les mêmes chances. Et malheureusement, si on en croit le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance qui est rattachée au Premier ministre, à qui, depuis plusieurs années, l'État demande de rendre tous les ans, en janvier, un rapport sur l'état du sexisme, le dernier rapport, qui date de janvier dernier, donc, fait état, justement, d'une inquiétante augmentation des propos et des conceptions sexistes chez les jeunes, chez les plus jeunes.
Alors que pourtant, il y a des formations, je pense notamment aux enseignants de l'éducation nationale, agricole, professionnelle, des formations à égalité, filles, garçons, au collège, en lycée.
J'aimerais qu'il en existe davantage. J'aimerais qu'il en existe davantage et que chaque enseignant soit bien persuadé de la part qu'il peut prendre en tant qu'enseignant et en tant que citoyen finalement hein, dans l'éducation de ses enfants et une éducation à une égalité réelle. Mais par exemple dans la formation initiale des enseignants, je pense pas qu'il y ait grand chose sur l'impact négatif des stéréotypes de genre. Voilà, et c'est bien dommage. Alors, l'éducation nationale est la première à faire des études universitaires extrêmement, extrêmement poussées ou à y participer. Alors, je pense à une autre étude qui avait été menée et coordonnée par Marie-Cécile Nave, qui est une sociologue chercheuse, je ne sais plus de quelle université parisienne elle dépend. Avec toute une équipe, elle avait sorti un rapport sur les biais de genre dans l'éducation et l'orientation, 2014. Tout est dit. La délégation des femmes du Sénat a sorti, enfin, a commandité à d'autres chercheurs et d'autres universitaires le même type de rapport qui dit la même chose. Ça fait des années que toutes ces choses se disent, ces choses se savent. La mise en œuvre, elle n'est pas facile. L'éducateur d'un enfant, c'est qui ? Alors, quand il est tout petit, c'est sa famille proche, c'est ses parents, sa famille proche. Plus il grandit, plus son monde s'ouvre, et plus il est confronté, plus ses expériences se multiplient avec d'autres personnes, d'autres contacts, la famille proche, de moins en moins proche, les voisins, les copains, l'école, la société, la rue, partout où cet enfant va grandir et voir des choses et être confronté à d'autres expériences.
Donc, alors justement, ce que vous dites, finalement, la lutte contre ces stéréotypes, être en faveur de l'égalité homme-femme, c'est la responsabilité de chacun. Ce serait une responsabilité citoyenne, d'après vous ?
Ah, bien sûr, bien sûr. On considère que le même Haut Conseil à l'égalité considère que 70% des contenus des réseaux sociaux est sexiste. Voilà. On considère que plus de 50% des enfants de CM1 ont déjà vu de la pornographie. 50% des enfants de CM1
ouais,
ont
ça
vu
nous laisse
de
bouche
la
bée,
pornographie.
Hein.
Donc ça veut dire que ces enfants-là... Il y avait récemment une interview du professeur Israël Nizan, donc un éminent gynéco-obstétricien qui travaille sur les hôpitaux, l'université de Strasbourg, si je ne me trompe, qui intervient depuis des années, depuis 30 ans, il intervient dans les écoles sur l'éducation à la sexualité. Et il explique qu'on lui pose des questions de plus en plus délirantes et que cette éducation à la sexualité chez les enfants, c'est fait partie aussi d'une éducation à l'autre, d'une éducation à la relation à l'autre, et lui voit des choses très inquiétantes. Je crois qu'il a sorti un livre là très récemment qu'il va falloir s'empresser d'aller d'aller compulser. Mais notre société vit des moments un peu difficiles, hein, ces crises économiques, climatiques, énergétiques, géopolitiques. C'est pas facile. C'est pas facile moralement. C'est pas facile. Donc, je pense que c'est aussi difficile de se dire. Par où prendre ce problème-là de l'égalité ? Par où le prendre ? Je pense que beaucoup de choses sont faites, je vous l'ai dit, sur le plan légal, sur le plan de l'organisation. Les différentes politiques gouvernementales se suivent et se ressemblent en ça qu'elles ont une action réelle sur la lutte contre les violences, sur l'égalité professionnelle. On ne peut plus, sans risquer de passer devant au moins des prud'hommes, se risquer à moins payer une femme qu'un homme dans une entreprise. C'est plus possible, vous voyez ? Mais les stéréotypes, ils sont toujours là. Et ils ont la vie dure. Et malheureusement, ils se raniment parfois, ils se rallument parfois au détriment des femmes. Et cette espèce, cet effet retour de bâton, hein, on le sent, on le voit... il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux pour voir des choses assez terrifiantes d'auto-revendiquer masculinistes, des discours d'une violence et d'une bêtise, hein, il faut bien le dire aussi, qui sont assez inquiétants. Donc je pense que, voilà... Activer ce levier de la déconstruction des stéréotypes, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un stéréotype de genre, comprendre quel est son impact négatif et pourquoi, sur le plan de notre société tout entière, il est absolument nécessaire de travailler à la lutte contre ces stéréotypes qui créent un clivage entre les sexes qui n'a pas lieu d'être. Il y a par exemple des études de l'Organisation mondiale du commerce qui démontrent que dans l'entreprise, les équipes mixtes sont les équipes les plus efficientes, les plus performantes et les plus compétitives.
Donc on sait que ça marche.
On sait que ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas ? Alors, mais il y a une réalité aussi, hein, quand on discute avec le directeur d'une fonderie, par exemple, il va vous dire, mais moi, j'aimerais bien recruter des femmes chaudronnières. Mais j'en trouve pas, il n'y en a pas. Effectivement. Mais là encore, stéréotype. C'est quoi l'industrie? C'est quoi les métiers de l'industrie? Est-ce que l'industrie, c'est sale, lourd, dangereux, oui. physique?
C'est vrai qu'on a cette image c'est de ça. L'ouvrier.
C'est quoi l'usine? C'est
l'ouvrier
quoi l'ouvrier
torse nu, en sueur, plein c'est de suie. Oui.
Mais par exemple, le stéréotype sur les entreprises des travaux publics. Vous avez. Qu'est-ce qu'on voit, nous, citoyens moyens, quand on se promène dans les rues sur les routes? On voit un ouvrier d'une entreprise de travaux publics dans une tranchée avec un marteau-piqueur. Oui. C'est un homme, et l'abominable stéréotype, un homme torse nu qui n'a pas mis ses équipements de protection individuelle, etc. etc. bon, okay. Mais ça, bien sûr, ça existe. Mais c'est une partie seulement des salariés et des missions de l'entreprise. Il y a aussi beaucoup d'autres postes dans ces entreprises. Mais. On ne va pas vers les métiers du TP. On a, par exemple, ici en Corrèze, un pôle TP fantastique à Égletons, où on peut vous former du CAP à la thèse.
Et oui.
Il y a quand même des choses fantastiques. De moins en moins de filles. De moins en moins de filles. Voilà. Donc, je pense que... Il n'y a pas de régression, ce n'est pas ça. Mais la progression de cette égalité réelle, elle se fait, mais elle se fait à petits pas. Mais c'est difficile de changer les mentalités. C'est difficile de changer les mentalités. On peut changer la loi, on peut changer le règlement, on peut changer... Ça, c'est, à la limite, c'est facile. Changer des mentalités, des années et des années de mentalités qui ont considéré que les filles étaient moins que les garçons,
et oui, ça
c'est
prend,
pas simple.
Ça prend du temps.
C'est pas simple. Voilà.
Alors, un enjeu aussi qu'il faut prendre à bras-le-corps, et vous en avez en plus un autre, il s'agit du thème de la santé sur le territoire. La santé
oui.
notamment des femmes.
Bien sûr, la santé des femmes. Donc, on est ici en milieu rural, donc on sait bien pour la santé de nos concitoyens en général. Hein, on sait bien que cette santé, c'est compliqué dans ces zones de désertification rurale. C'est difficile de trouver un médecin. Et pour les femmes, c'est encore plus difficile de trouver des médecins spécialistes. Encore plus difficile de trouver un gynécologue. Les délais d'attente sont extrêmement longs. Le risque qu'on peut y voir, c'est aussi les dangers sur les pratiques de l'IVG. Donc trouver un médecin, trouver un relais, trouver un hôpital, trouver une place, c'est pas simple. La santé des femmes, c'est aussi un enjeu extrêmement important sur d'autres sujets. Alors, on a effectivement le sujet des pathologies féminines. On parle beaucoup de l'endométriose, mais enfin dirais-je, on parle
oui,
beaucoup
et puis ça avance.
C'est pas si récent que ça.
Ça avance, on entend beaucoup de choses, des nouvelles études,
c'est
des
ça.
Chercheurs qui
c'est
s'y
ça.
Intéressent
donc,
vraiment beaucoup.
Donc enfin, c'est une maladie féminine, reconnue, et on arrête de traiter les femmes d'hystériques ou
c'est
de
chuchotes. C'est dans la tête, ça fait pas
de,
mal.
Voilà,
oui.
c'est ça. Hein donc, ou alors, ce sont des douleurs nécessaires. On a
oui,
quand même un vieux passé judéo-chrétien, n'oublions
oui,
pas.
Oui, la femme est faite pour souffrir, voilà.
C'est ça. Donc, mais il y a aussi beaucoup de choses, par exemple, sur les symptômes de certaines pathologies. Le symptôme de la crise cardiaque n'est pas forcément le même chez les hommes et chez les femmes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de messages de santé publique à faire passer et tous les messages de prévention. Les femmes fréquentent beaucoup plus les médecins que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles y emmènent beaucoup les enfants.
Oui. Et pourtant, on a cette image de la femme qui va plus être amenée à prendre sur elle parce qu'il n'y a pas le choix.
Oui, mais pour autant, dans les consultations médicales, et en particulier en milieu rural, les hommes consultent moins. Parce que, encore une fois, du stéréotype, à la campagne, on est dur au mal.
On n'est pas des chouchottes.
On n'est
voilà.
pas des chouchottes, on a l'habitude. On est des paysans ou des enfants de paysans et on sait ce que c'est que travailler dur. C'est pas un petit bobo qui va nous, etc., etc. Donc ce stéréotype-là, vous voyez, qui pèse là du coup sur les épaules des hommes, est plutôt mauvais pour leur santé et pour leur espérance de vie. Voilà. Les femmes consultent plus. Les femmes consultent plus. Elles sont plus conscientes de l'importance des suivis nécessaires. La thématique et la problématique, c'est le manque de ressources. C'est le manque de ressources médicales spécialisées. Voilà. Une consultation gynécologique ici à Mémac. Ça s'anticipe depuis longtemps, quoi. Donc c'est
oui,
compliqué.
Oui, oui. Heureusement, on a des sages-femmes libérales.
Oui, des sages-femmes très libérales.
Très appréciées du
voilà,
territoire. Mais
quand
mais...
on est en zone rurale, qu'on n'est pas mobile, qu'on n'a pas de véhicule, qu'on n'a pas de... Compliqué. C'est compliqué, tout ça. Donc effectivement, la santé des femmes, c'est aussi un sujet. Et la santé, je dirais, la santé mentale des femmes, c'est aussi une thématique. Même si là aussi, elles, en moyenne, consultent plus parce qu'elles sont plus... convaincues de l'intérêt des consultations médicales.
Et qu'est-ce qu'il
pour
manque,
elles et pour les autres.
Qu'est-ce qu'il manque alors concrètement sur le territoire? Vous pensez que c'est juste dû à la désertification? Le fait que les femmes n'aient parfois pas accès en temps et en heure à certains soins? Ou est-ce qu'il y a un manque de moyens? Un manque peut-être alors, justement quelque chose lié aux mentalités?
Les manques de moyens, je ne vais pas revenir sur les difficultés de l'hôpital. Hein. Alors, bon, d'abord, ça n'est pas mon ministère, donc je ne suis pas légitime pour parler de ce ministère-là. Mais
ça
moi,
en
je
fait
pense
partie,
que,
en tout cas, ça vient
bien
impacter.
Bien sûr,
justement.
Mais je pense que la santé en général, les soignants font tout ce qu'ils peuvent, bien évidemment, pour essayer de pallier leurs difficultés d'organisation en ce moment. Il faudrait pouvoir faire mieux, mais voilà, ce sont des choses qui ne dépendent pas ni de moi, ni de mon ministère, ni de ma politique publique. Donc, ce n'est pas forcément le sujet sur lequel j'irai le plus facilement. Mais encore une fois, vous voyez, le travail des stéréotypes là-dedans est aussi important, mais là, finalement, il est plutôt négatif, plus pour les hommes que pour les femmes, sur les consultations médicales. Mais la santé des femmes elles-mêmes... Effectivement, et les pathologies féminines, et les expressions des symptômes plutôt liés aux femmes. Pendant longtemps, on n'a fait aucune étude, aucun test de médicaments sur des femmes. Les tests de médicaments de dosage se faisaient sur les hommes, puisqu'on considérait que voilà, le corps des femmes était plutôt lié, lui, à la procréation, et que faire des expérimentations, encadrées bien sûr, des expérimentations médicales, sur des femmes, ça pouvait leur faire courir un risque dans leur potentielle future maternité. Donc, comment fait-on des tests s'il n'y a pas de femmes? Comment peut-on dire que les médicaments, les posologies, les traitements sont adaptés au corps féminin? Voilà. Plein de sujets, mais qui sont plus ceux-là, pour le coup, qui sont plus ceux du ministère de la Santé, qui développent aussi beaucoup de choses sur le sujet. En particulier en prévention, en promotion de la santé, beaucoup de choses se font.
Marie Renard, merci en tout cas de nous avoir présenté votre métier.
Mais je vous en prie.
Les missions également que vous avez sur le territoire. Alors je vous pose une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à nous les femmes, à nous les Corréziennes, pour cette journée du 8 mars?
Alors les Corréziennes
beaucoup
sont...
de choses peut-être.
Beaucoup de choses bien sûr, mais je trouve que les Corréziennes sont extrêmement dynamiques. Par exemple, pour le 8 mars, la préfecture de la Corrèze accueille un collectif d'artistes femmes de Corrèze qui, sur deux représentations, va proposer une déambulation autour de différentes artistes, plasticiennes, autrices, actrices. Donc, je pense que ça va être quelque chose, photographe. Je pense que ça va être quelque chose de très très chouette, pour lequel le préfet de la Corrèze, Étienne Desplanques, ouvre la résidence préfectorale au public exceptionnellement sur cet après-midi
ce vendredi 8 mars.
Ce vendredi donc. 8 mars, sur l'après-midi, voilà, deux représentations de ce collectif artistique au féminin que j'ai l'honneur d'accompagner dans leur structuration. Pour justement créer un réseau d'appui, d'aide et d'encouragement à la création artistique au féminin sur le département. En Corrèze, les femmes font beaucoup de choses, elles sont très actives et je trouve que c'est passionnant pour moi de les accompagner dans des tas de projets. Ce que je pourrais souhaiter, c'est que cette Corrèze qui est quand même... encore rurale, puisse s'interroger sur l'avenir de ses filles, sur l'éducation et l'avenir de ses filles. Qu'est-ce qu'on veut collectivement, individuellement et collectivement pour nos enfants et pour nos filles? Est-ce qu'elles n'ont pas droit finalement au même épanouissement personnel et professionnel que leurs frères, ou est-ce que on ne peut pas, en tant que parents, adultes, éducateurs au sens large, est-ce qu'on ne peut pas chacun prendre sa part au développement de ces filles, sans oublier bien sûr les garçons. Je vous disais, les stéréotypes touchent les deux, mais franchement, voilà, je pense qu'on a collectivement beaucoup de, enfin, des questions à se poser sur la façon dont on éduque au sens large nos filles, la façon dont on les... dont on leur donne confiance, la thématique du manque de confiance en soi chez les filles et ensuite chez les filles devenues adultes, comme les créatrices d'entreprises, par exemple. Hein, c'est un sujet qui nous travaille et avec le, avec, sur lequel, avec les, un certain nombre de partenaires du département, on a monté une action de marrainage. Ça se passe plutôt à Brive, et des chefs d'entreprise marrainent des créatrices d'entreprises. Non pas sur le volet création d'entreprise, c'est-à-dire pas le volet technique, administratif et financier, mais plutôt sur le volet confiance en soi, accompagnement, solidarité, sororité. Voilà. Et ça, ça répond à un besoin. Et ça répond à un constat de ces structures d'accompagnement à la création d'entreprise qui constate encore que s'il y a autant de projets, de porteurs de projets hommes que femmes, des projets qui aboutissent, ce sont plus ceux des hommes. Et là, le déficit de confiance en soi, le déficit d'estime de soi, fait partie des freins, finalement, des freins invisibles qui pèsent sur les épaules des femmes. Ce déficit de confiance en soi, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pas trop dur pour moi, comment vont réagir mes enfants, que va dire mon conjoint.
La prise de risque.
C'est ça. Les hommes ne se posent pas ce genre de questions.
Alors finalement, quand je vous écoute, et on va peut-être terminer cette interview par ce sujet, c'est que l'égalité homme-femme, elle est bénéfique pour tout le monde, autant pour les femmes que pour les hommes.
Tout à fait, tout à fait. On parle de,
faut pas en avoir peur.
Pas du tout. On parle d'empathie beaucoup en ce moment dans notre société, en particulier au niveau de l'éducation nationale. L'empathie, ça se travaille pour être empathique, c'est-à-dire pour pouvoir écouter l'autre, pour pouvoir le respecter en ce qu'il est différent de soi-même. Je pense que il faut travailler ces questions d'égalité, d'égalité entre les sexes, d'égalité entre les genres, d'égalité entre les peuples, enfin entre les races, entre les cultures. Je pense que c'est cette question d'égalité, mais cette question d'égalité entre les sexes, c'est quand même la base. Et je pense que c'est cette façon-là d'éduquer les enfants qui permettrait, je pense... Ces enfants seront les adultes de demain, bien évidemment. Hein. Donc, leur apprendre l'empathie, leur apprendre le respect de son voisin et de sa voisine, je pense que c'est la base d'une société plus harmonieuse, moins brutale, moins violente. Il y a une dernière petite référence, une autrice qui va venir d'ailleurs faire une conférence en Corrèze fin mai, qui s'appelle Lucille Peytavin, qui est une historienne, et qui a fait un constat chiffré que l'immense majorité des personnes incarcérées étaient des hommes. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Je vous engage à le lire, c'est extrêmement éclairant. Voilà, sur l'éducation... la différence d'éducation entre les filles et les garçons et les conséquences pour notre société, pour nos finances publiques. Voilà, je pense que il y a beaucoup à chercher là-dedans. Une société plus égalitaire est aussi une société qui gaspille, enfin qui donne moins d'argent en politique sociale ou en politique pénale. Voilà.
Merci Marie Renard pour la richesse de cette interview. On vous dit peut-être à bientôt sur Radio Vassivière.
Je l'espère. Merci à vous.